Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur, troisième cassette, première face, page 68. Le fiacre s'ébranla et se mit en marche. Les enfants regardaient avec admiration. Tout leur paraissait magnifique, malgré l'heure matinale, le silence des rues, l'absence de mouvement. Quand la voiture s'arrêta devant le numéro 263 de la rue Saint-Honoré, il croyait être parti depuis quelques minutes seulement. « Allons, messieurs, descendez, nous voici arrivés, » dit le cocher en ouvrant la portière. Jean descendit, paya comme le lui avait recommandé le chef de train, et ils se trouvèrent devant une porte fermée, ne sachant comment faire pour entrer.
« Frappe à la porte !» dit Jeannot.
Jean frappa. Jeannot frappa. La porte ne s'ouvrait pas.
« Appelle !» dit Jeannot.
« Simon !» cria Jean. « Simon, c'est nous ! Ouvre la porte !» Ils avaient beau crier et appeler, la porte ne s'ouvrait pas.
« Qu'allons-nous devenir, mon Dieu ?»
s'écria Jeannot, prêt à pleurer.
« Ne t'effraie donc pas, dit Jean, c'est qu'il dort encore. Attendons, il faudra bien qu'il s'éveille et qu'il nous ouvre. »
Après avoir attendu 5 minutes, qui leur parurent 5 heures, ils recommencèrent à taper et à appeler Simon.
« Simon ! Simon ! Simon ! Simon ! Simon ! »
Enfin, la porte s'entr'ouvrit. Un gros homme à cheveux gris passa la tête.
« Quel diantre de tapage faites-vous donc là, vous autres ? Ça a-t-il du bon sens d'éveiller le monde si matin ? Que demandez-vous ? Que voulez-vous ? »
« Je vous demande pardon, monsieur, » dit Jean. « Nous ne voulions pas vous déranger. Nous appelions mon frère Simon qui demeure ici. »«
Et comment voulez-vous qu'il vous entende ?» dit le portier, « puisqu'il demeure au cinquième. »
« Je ne savais pas, monsieur. Je vous demande bien pardon. Nous attendrons si vous voulez, monsieur. »«
Allons, à présent que me voici éveillé et levé, je n'ai pas besoin que vous attendiez. Entrez et montez. »
Le portier ouvrit, fit entrer Jean et Jeannot et referma la porte.
« Au fond de la cour, l'escalier à droite, au cinquième, » grommela le portier.
Et il rentra dans le trou noir qui lui servait de chambre. Jean avait le cœur un peu serré. L'aspect sombre, sale et délabré de la cour de la maison lui inspirait une certaine répugnance. Jeannot était consterné. Tous deux montèrent sans parler l'escalier qu'on leur avait indiqué. Ils montaient toujours. Arrivés au haut de l'escalier, ils virent 3 portes devant eux, à droite, à gauche, en face.
« Frappe donc !» dit Jeannot. Ben, « Où frapper ? Comment faire ? J'ai peur de fâcher quelqu'un si je frappe à une autre porte qu'à celle de Simon.
« mon Dieu, qu'allons-nous devenir ?»
recommença Jeannot de son ton larmoyant.
Ne t'effraie donc pas. Je vais appeler. Simon ! Simon !
Appela Jean à mi-voix. Une porte s'ouvrit. Un jeune homme s'y montra.
Simon ! S'écria Jean. Il se jeta à son cou. C'est toi, Jean ? Dit Simon. Et toi, Jeannot ? Dieu soit loué. J'avais tant besoin de revoir quelqu'un du pays. Entrez, entrez. « Nous allons causer pendant que je m'habillerai. »« Je ne vous attendais pas si tôt. »« Maman avait écrit que vous seriez ici dans 1 mois. »« Certainement, » dit Jean, « nous ne devions pas arriver avant. »« Mais nous avons voyagé comme des princes, en voiture et en train. »« Je te raconterai ça. »
Ils entrèrent dans une petite chambre propre, claire et assez gaie. Tout en furetant partout et en regardant Simon se débarbouiller et s'habiller, Jean et Jeannot lui donnèrent des nouvelles du pays et lui racontèrent toutes leurs aventures.
« Il paraît que Jeannot n'a pas la chance, » dit Simon. « Et toi, Jean, je crois bien que c'est toi qui fais venir la chance par ton caractère gai, ouvert et serviable. Tu as toujours été comme ça. Je me sens qu'ils eurent bien causé, bien ri, et qu'ils se furent embrassés plus de 10 fois, Jean demanda.
« Et que vas-tu faire de nous, Simon ? Tu ne vas pas nous garder à ne rien faire, je pense. »«
Non, non, sois tranquille. Vous êtes placé d'avance. Toi, Jean, tu entres comme garçon de café dans la maison où je suis. Et toi, Jeannot, tu vas entrer de suite chez un épicier. »«
Tiens, pourquoi pas garçon de café comme Jean ? » ?»«
Parce qu'il n'y avait qu'une place libre. Tout le monde ne peut pas faire le même travail. »«
Est-ce que nous serons dans la même maison ?»«
Non, toi, Jeannot, tu seras tout près d'ici, dans la rue de Rivoli. » Et près de Jean, qui demeurera avec moi dans cette maison où nous sommes en service.
Quel service ferons-nous ? Demanda Jean.
Le service d'un café, dit Simon. C'est un bon travail, mais fatigant.
En quoi est-il fatigant ? Demanda Jean.
Eh, parce qu'il faut être actif, alerte, toujours sur pied, adroit pour ne rien briser, ni accrocher, ni répandre. Tu feras bien l'affaire, toi.
Ben, je l'aurais bien fait aussi, dit Jeannot.
Mais non, tu n'es pas assez vif, assez en train. Tu te serais fait renvoyer au bout de 8 jours.
Jeannot ne dit plus rien. Il prit son air boudeur.
Ha 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 ha, dit Simon en riant. Quelle figure tu fais ! Ça ferait bon effet dans un café. Tous les clients se sauveraient pour ne plus revenir.
Jeannot prit un air encore plus maussade. Simon leva les épaules en riant.
« Ha ha, toujours le même, » dit-il. « Ah, ça, voici bientôt 7 heures.
Il faut descendre au café, Jean. Et toi, Jeannot, je vais te présenter à ton maître épicier. Sois bien poli et déride-toi, car l'épicier doit être gai et farceur, par état. »
Simon tira un pain de son armoire, en coupa 3 grosses tranches, en donna une à Jean et à Jeannot et mit la 3e dans sa poche. Ils descendirent les 5 étages et entrèrent dans un café très propre, très joli. Jean et Jeannot restèrent ébahis devant les glaces, les chaises de velours, les tables sculptées, etc. Pendant qu'ils admiraient, Simon alla parler au maître du café et revint peu de temps après avec un morceau de fromage, des verres et une bouteille de vin. Il versa du vin dans les 3 verres.
« Déjeunons, dit-il, avant que le monde arrive. Et vite, car il y a de la besogne. Il faut tout nettoyer et ranger. »
Chapitre 9. Début de Monsieur Abel et de Jeannot. Ils mangèrent et burent. Le petit déjeuner mit Jeannot en belle humeur et il se mit gaiement en route avec Simon et Jean pour commencer son service chez l'épicier. Le chemin ne fut pas long. 5 minutes après, ils entraient dans le magasin. Pontois, P-O-N-T-O-I-S, c'est le nom de l'épicier. Pontois, dit Simon, voici mon cousin Jeannot, le garçon que vous attendiez. Il est arrivé de ce matin et tout prêt à se mettre à la besogne.
Bien, bien, dit Pontois. Approche, mon garçon, approche. Prends-moi ce bocal de cornichons et va le poser près du comptoir là-bas.
Où est-ce que c'est, monsieur ?
Ah, bien parlé, mon ami, dit l'épicier. Le français le plus pur.
Où est-ce que c'est ?
Là-bas, sur le comptoir.
Où est-ce que c'est le comptoir ?
Ben, en face de toi, Nigo, devant madame qui est là, qui écrit. Tout le monde riait. Jeannot, pas trop content, avance vers le comptoir, bute contre une caisse de pruneaux et tombe avec le bocal de cornichons.
Maladroit !
crie Pontois.
Maladroit!
Répète la dame du comptoir. Maladroit! S'écrient les garçons épiciers. Malheureux! S'écrie Simon. Pauvre Jeannot! S'écrie Jean en courant à lui. Jeannot s'était relevé, irrité et confus. Il avait eu de la chance, le bocal ne s'était brisé que du haut, la moitié des cornichons était par terre, mais les garçons se précipitèrent pour les ramasser, et il n'y en eut guère que le quart de perdu.
« Dis donc, petit drôle, dit Pontois, pour la première fois, passe, mais une seconde fois, tu payes.
J'ai promis à Simon que tu aurais 10 francs par mois. » Ça fait à peu près 200 francs d'aujourd'hui. Nourri, vêtu, logé, blanchi. Prends garde que les 10 francs ne filent à payer la casse. Qu'en dites-vous, Simon ?
Mauvais début, ça me promet de l'agrément.
Non, non, Pontois, dit Simon. C'est l'embarras, la timidité. Il ne fallait pas lui faire transporter un bocal pour commencer. Au revoir, je m'en vais, moi, avec mon débutant.
« Oh, il est gentil celui-ci, » dit Pontois.
« Dites donc, Simon, voulez-vous changer ? Reprenez l'autre et donnez-moi celui-ci. »«
Non, non, Pontois, » répondit Simon. « Gardons chacun le nôtre. Celui-ci est mon frère. Jeannot est mon cousin. Au revoir. Je viendrai demain savoir comment ça va. »«
Courage, Jeannot. Ne te trouble pas pour si peu. À demain. » Jeannot ne répondit pas. Il était mécontent de la différence que faisait Simon entre son frère et son cousin. Pontois le mit tout de suite à l'ouvrage. Il lui fit porter un paquet d'épicerie à l'hôtel Meurice, M-E-U-R-I-C-E. C'est un grand hôtel de Paris qui existe encore aujourd'hui. Parce que cette histoire se passe il y a 130 ans à peu près. À l'hôtel Meurice, qui se trouvait à quelques portes plus loin, et il le fit accompagner par un des garçons. Les premiers jours, Jeannot ne fit pas autre chose que des commissions et des courses avec les garçons qu'on envoyait dans tous les quartiers de Paris, de sorte qu'il commençait à connaître les rues et aussi les habitudes du commerce. Jean, de son côté, faisait l'apprentissage de garçon de café. Son intelligence, sa gaieté, sa bonne volonté, sa prévenance le mirent rapidement dans les bonnes grâces des habitués du café. On aimait à le faire bavarder, à se faire servir par lui. Il recevait souvent d'assez gros pourboires qu'il remettait fidèlement à Simon. Celui-ci était fier du succès de son frère. Tous deux, en rentrant le soir dans leur petite chambre, remerciaient Dieu de les avoir réunis. Jean était heureux. Ses seuls moments de tristesse étaient ceux où le souvenir de sa mère venait le troubler. Quelquefois, une larme mouillait ses yeux, mais il chassait bien vite cette pensée et il retrouvait son courage en regardant son frère, si heureux de sa présence. Un jour, vers midi, un monsieur entra dans le café.
« Un nouveau client !» dit le patron à Simon, qui se trouvait près de lui.
Simon regarda et vit un jeune homme de belle taille, de tournure élégante, qui examinait le café, les garçons, les habitués. Ses yeux s'arrêtèrent sur Simon avec un léger mouvement de surprise. Il s'assit à une petite table et appela
« Garçon !»
Un garçon s'empressa d'accourir.
« Non, ce n'est pas vous, mon ami, que je demande. Je veux être servi par Simon. »
Le garçon s'éloigna, un peu surpris, et avertit Simon qu'un monsieur le demandait.
« Monsieur me demande ?» dit Simon. « Qu'y a-t-il pour le service de monsieur ?»«
Oui, Simon, » dit l'étranger. « C'est vous que j'ai demandé. Apportez-moi 2 côtelettes aux épinards et 1 œuf frais. »
Simon partit et revint un instant d'après, apportant les côtelettes demandées.
« Monsieur me connaît donc ?» demanda-t-il.
« Hélène Dutheck. »
« Pardon, monsieur, » dit Simon étonné. « Je ne me rappelle pas le nom de monsieur. »
« Rien d'étonnant, Simon. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne m'avez jamais vu. »«
Mais alors, comment ai-je l'honneur d'être connu de monsieur ?»«
Ah, c'est mon secret. Je viens de votre pays, j'ai vu qu'est rentré.
Simon fait un geste de surprise.
J'ai vu la bonne Hélène et je veux voir mon petit ami Jean.
Mais monsieur, dit Simon, veuillez m'expliquer.
Jean entrait en ce moment. Il apportait un potage et un œuf frais à un habitué.
Ah, oh, le voilà! Le voilà, ma foi, le voilà, dit l'étranger.
Amène-le de mon côté et dis-lui de m'apporter une bouteille de bière.
Simon, fort intrigué, donna à Jean l'ordre d'apporter de la bière à la table numéro 6. Jean apporta la bière, la posa sur la table, regarda le monsieur et poussa un cri.
« Monsieur le voleur, quel bonheur, le voilà » s'écria-t-il.
À ce cri, les garçons se retournèrent, la dame du comptoir répéta le cri de Jean, les habitués se levèrent, le plus résolu courut à la porte pour le garder. Simon resta stupéfait et Jean saisit les mains du voleur qui se leva en riant aux éclats.
« Très bien mon petit Jean, c'est ce que j'attendais. Oui, messieurs, je suis, comme le dit Jean, un voleur. Mais un voleur pour rire, ajouta-t-il en voyant les garçons et les habitués s'avancer vers lui avec des visages et des poings menaçants. J'ai fait le voleur pour donner de la prudence à ces enfants qui comptaient leur argent sur la grande route le long d'un bois. À propos, Jean, où est donc le pleurard que je n'aimais pas? « Ton cousin Jeannot ?»«
Chez un épicier à côté, monsieur, dans la rue de Rivoli. »«
Un épicier ? Ah ah, quelle chance ! Moi, tout juste qui déteste les épiciers. »« Eh bien, Simon, me connais-tu maintenant ?»«
Je crois bien, monsieur, dit Simon, sauf que je ne sais pas votre nom. Jean m'a tout conté et je suis bien content de vous voir, monsieur. »
Les habitués s'étaient remis à manger et les garçons à servir. Tous riaient plus ou moins de leur méprise. La dame du comptoir comptait son argent pour s'assurer que dans la bagarre, sa caisse n'avait subi aucun déficit. Rassurée sur ce point, elle écouta avec intérêt la conversation de Jean et de l'étranger.
« Comment tu fais pour arriver si tôt ?» demanda monsieur Abel. « Vous deviez être un mois en route. »
« Oui, monsieur, mais nous avons rencontré un excellent monsieur Kersac, fermier près de Sainte-Anne. Il nous a menés en carriole jusqu'à Vannes, puis jusqu'à Malensac, puis il a payé nos places de chemin de fer jusqu'à Paris, de sorte que nous y étions avant vous, monsieur. »
« Et ce brave Kersac avait-il pris goût pour Jeannot ?» demanda l'étranger.
Pas trop, monsieur, dit Jean en souriant aussi. Ce pauvre Jeannot a continué à se lamenter de son guignon, de sa déveine.
Du guignon, il devrait dire, de la maussaderie, de la mauvaise humeur. C'est étonnant comme ce pleurard me déplaît.
Mais pourquoi n'as-tu pas dit mon nom à Simon? C'est que je ne le savais pas, monsieur.
Comment? « Je l'avais écrit sur un papier que j'ai mis dans ta bourse. »«
Et moi qui ne l'ai pas vu ?» s'écria Jean. « Il est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir ma bourse depuis que je vous ai quitté. Mais que je suis donc content de vous revoir, monsieur. Et où logez-vous donc ?»«
À l'hôtel Meurice, à deux pas d'ici. »«
Tant mieux, dit Jean. Nous nous verrons souvent. »«
Tous les matins, je viendrai déjeuner ici. »
Ton repas. Il paya, donna à Jean un gros pourboire, donna à Simon son nom et son adresse, Monsieur Abel, A-B-E-L, Hôtel Meurice, et sortit. Il se dirigea vers la rue de Rivoli et marcha jusqu'à ce qu'il eût aperçu la boutique d'un épicier. Il y jeta un coup d'œil, reconnut Jeannot, continua son chemin, puis il revint sur ses pas, mit son chapeau en arrière de sa tête comme un Anglais, allongea sa figure, prit un air raide et compassé, marcha les pieds un peu en dedans, les genoux légèrement pliés, et entra chez l'épicier. Il resta immobile.
« Monsieur veut quelque chose ?» demanda Pontois, le patron épicier.
Monsieur Abel
prit un accent anglais très prononcé et très solennel.
Hôtel Meurice.
Hôtel Meurice, Milord. C'est ici près, Milord. Suivez les arcades de la rue de Rivoli.
Hôtel Meurice.
Ici, monsieur, là, tout près d'ici, la 12e porte.
Hôtel Meurice.
Il ne comprend donc pas, ou bien il est sourd, dit Pontois.
Là, monsieur, là, vous voyez bien, là, là, devant vous. Hôtel Meurice,
dit encore le faux anglais.
Oh, ces diables d'anglais, dit Pontois, c'est bête comme tout, ils ne comprennent même pas le français.
Dis donc, Jeannot, mène-le à son hôtel Meurice, ça sera plutôt fait.
Jeannot sortit, faisant signe à l'anglais de le suivre. L'anglais suivit. Aux questions que lui adressa Jeannot, il répondait toujours
« Hôtel Meurice ».
Ils y arrivèrent promptement. L'anglais le dépassa, marchant droit devant lui. Jeannot courut après lui.
« Par ici, monsieur, par ici, vous l'avez dépassé !»« Hôtel Meurice !»
demanda encore le faux anglais.
« C'est ici, votre hôtel Meurice, là. Vous ne le voyez donc pas? Vous êtes en face, en plein, là, sous votre nez. »
Monsieur Abel reprit sa voix naturelle.
« Merci, épicier !»
En même temps, il lui enfonça à deux mains sa casquette sur les yeux, de sorte que Monsieur Abel put entrer à l'hôtel et disparaître avant que Jeannot se fût dépêtré de sa casquette. Jeannot regarda autour de lui et retourna à l'épicerie, fort en colère d'avoir été joué par un mauvais plaisant. Quand il rentra et qu'il conta son aventure, tout le monde se moqua de lui, ce qui ne lui rendit pas sa belle humeur. Il se trouva malheureux et mal partagé.
Quand je pense à Jean, quelle différence entre lui et moi, comme sa position est agréable. Et les pourboires qu'il reçoit. Et moi, personne ne me donne rien. Mon ouvrage est sale, désagréable et fatigant. Je suis bien malheureux, rien ne me réussit.
Jean et Simon ne voyaient pas souvent Jeannot parce qu'ils avaient beaucoup à faire dans la journée. C'était la belle saison, il faisait chaud, on venait déjeuner de bonne heure et prendre des rafraîchissements matin et soir jusqu'à une heure assez avancée. Ensuite, il fallait tout laver, essuyer, ranger. Souvent, à minuit, Simon n'était pas encore couché. Quant à Jean, vu sa grande jeunesse, Simon avait obtenu qu'on l'envoyât se coucher à 10 heures, de sorte que sans être trop fatigué, il n'avait que bien rarement la possibilité d'aller voir Jeannot. Le dimanche, Simon et Jean se levaient de grand matin et allaient à la messe de 6 heures. Ils avaient proposé à Jeannot d'aller le prendre. Il les accompagna à la messe les premiers dimanches, puis il trouva que c'était trop matin. Il préférait dormir et aller à la messe de 10 heures, de midi, ou même pas du tout. De sorte qu'il vit de moins en moins Simon et Jean. Au café, il n'y a pas de dimanche pour les garçons. C'est au contraire le jour où il y a le plus à faire, le plus de monde à servir. Pourtant, Simon ayant mis pour condition de son entrée et de celle de son frère qu'ils iraient à l'office du soir un dimanche sur deux, Jean y allait une fois et Simon la fois d'après. Cette condition demandée, presque imposée par Simon, avait tout d'abord surpris et mécontenté le maître du café. Mais en voyant le service régulier, consciencieux de Simon, ensuite de Jean, il prit les deux frères en grande estime, il eut confiance en eux et il comprit que pour avoir des serviteurs honnêtes et sûrs, il était bon d'avoir des serviteurs chrétiens. En outre, Simon et Jean plaisaient beaucoup aux habitués et même aux allants et venants. Ils exécutaient les ordres qu'on leur donnait sans bruit, sans agitation. Chacun était servi comme il l'aimait, comme il le désirait. Quelquefois, les habitués faisaient causer Jean dont l'entrain, l'esprit et la bonne humeur excitaient la gaieté de ceux qui le questionnaient. Chapitre 10.
suite des débuts de Jeannot et de Monsieur Abel. De tous les habitués, celui que Jean servait et avec qui il parlait avec le plus de plaisir était Monsieur Abel, qui était servi à part dans une petite pièce tout seul et servi tout particulièrement à cause de sa consommation régulière et largement payée. Un jour, Monsieur Abel questionna Jean sur Jeannot.
« Est-il content chez son épicier ? » dit-il.
« Pas toujours, monsieur, » répondit Jean. « La semaine dernière, il était en colère contre un prétendu anglais qu'il a fait promener et enrager et qui n'était pas plus anglais que vous ou moi, monsieur. Son maître et les garçons épiciers se sont moqués de lui. Jeannot s'est mis en colère, on l'a turlupiné, il s'est fâché plus encore, le patron l'a houspillé et taquiné. » Jeannot leur a dit des sottises, le patron s'est fâché tout de bon, il lui a tiré les cheveux et les oreilles et l'a renvoyé d'un coup de pied avec du pain sec pour son dîner.
Oh, dit Monsieur Abel, la bonne farce. Et sait-on qui était ce faux anglais?
Non, monsieur, personne ne le connaît.
Bon, il faudra tâcher de le retrouver pourtant.
Il vaut mieux le laisser tranquille, monsieur. Il n'a fait de mal à personne. Il s'est un peu amusé, mais il n'y avait pas de quoi se fâcher.
Tu n'en veux donc pas, ce farceur?
Oh, pour ça non, monsieur.
Allons, tu es un bon garçon. Tu comprends la plaisanterie. Pas comme Jeannot, qui rage pour un rien.
Peu de jours après, monsieur Abel se dirigea encore vers l'épicerie où travaillait Jeannot. Il n'avait pas la même apparence que les jours précédents. Sur sa redingote, il avait une blouse à ceinture, autour du visage un mouchoir à carreaux, sur la tête une casquette d'ouvrier et son chapeau à la main. Il tenait une grande marmite, il s'arrêta devant l'épicier, entra et demanda avec l'accent auvergnat.
Du résiné, s'il vous plaît.
Du résiné, c'est une espèce de confiture de raisin. « Pour combien, monsieur ?» demanda un garçon.
« De quoi remplir la marmite, mon garçon ?»«
Voilà, monsieur, » dit le garçon. « 1,50 €. »«
Marchi, voici l'argent. »
Le garçon alla au comptoir et tournait le dos à la porte. Jeannot bâillait à l'entrée.
« Vlan, c'est pour toi, chat !» dit le faux auvergnat.
Et il coiffa Jeannot de la marmite pleine. Le résiné coule sur la figure, le dos, les épaules de Jeannot. Avant qu'il ait eu le temps de crier, d'enlever sa coiffure, Monsieur Abel avait disparu. En 2 secondes, il s'était débarrassé de son mouchoir, de sa blouse, de sa casquette. Il avait mis son chapeau sur sa tête, il avait roulé la blouse et le reste, et avait jeté le tout dans une allée au tournant de la rue. Fin de la première piste de la troisième cassette, page 84. Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur. Laisse la cassette se dérouler jusqu'à la fin et ensuite retourne-la. À tout de suite.